Radio Okapi.
À la présentation du journal, patience Ngaloula.
À la une de ce journal, la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis expire demain vendredi 19 juillet. Cependant, les déplacés et d'autres victimes de la guerre dans les Grands Nord Kivu n'ont pas suffisamment bénéficié de l'aide humanitaire. Plus de 50 enfants souffrant de bec de lièvre ont été opérés à l'hôpital général de référence de Bounia. C'est dans le cadre d'une campagne d'opération chirurgicale menée par l'ONG internationale Samaritan Purse en collaboration avec l'administration militaire. Célébration ce jeudi de la journée internationale Nelson Mandela. Radio Okapi reçoit dans ce journal le professeur Kaumba Lufunda, auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela. Il revient sur l'importance de cette journée. Bonjour. Les déplacés des guerres et populations des zones occupées par la rébellion du M23 dans les Grands Nord Kivu n'ont pas suffisamment bénéficié de la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis. À un jour de la fin de cette période, censée être sans armes ni bruit des bottes, aucune action de grande envergure en termes d'assistance alimentaire, par exemple, n'a été organisée dans la région de Butembo, Lubero, durant cette période. Quelques responsables d'ONG humanitaires affirment que cela est dû à des nombreuses contraintes auxquelles font face leurs organisations dans la région. Sadiki Aboubakar nous en dit plus.
La trêve humanitaire avait pour objectif de faire taire les armes dans la zone des combats pendant 2 semaines. Cela afin de réduire les risques sécuritaires pour les humanitaires et leur permettre d'acheminer de l'aide aux déplacés. Cependant, plusieurs contraintes, notamment d'ordre sécuritaire, ont empêché ces organisations humanitaires de mener à bien des interventions dans la zone, affirme le responsable d'une organisation humanitaire qui a requis l'anonymat. Depuis le meurtre des 2 agents d'une ONG internationale et l'incendie de 5 de leurs véhicules par des jeunes dans le territoire de Lubero, au lendemain de l'occupation des Kanyabayonga et Kirumba par le M23, un climat de méfiance vis-à-vis des organisations humanitaires s'est installé dans la région, ce qui n'a pas permis de garantir leur sécurité. Par conséquent, les organisations humanitaires n'ont pas eu la facilité de se mouvoir pour accéder aux zones où se trouvent des milliers de déplacés et de retourner dans le territoire de Lubero. Toutefois, des sources locales à Kirumba rapportent que quelques ONG y sont malgré tout présentes. C'est entre autres MSF, InterSos et Hexeper. Ces organisations continuent de mener quelques actions sur place dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, avec toutefois une marge de manœuvre très réduite, précise la même source. Beni Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, les différentes structures de jeunes de la ville de Beni s'engagent désormais à organiser leurs manifestations et actions sans violence ni dérapage. C'est ce qui ressort d'un dialogue de 2 jours organisé à Beni par les parlements de jeunes et les conseils urbains de la jeunesse. Cette activité était organisée dans le cadre du projet Tujenge en français, construisons, projet de l'organisation internationale Alerte. Les détails avec Guylaine Kassassia.
Parmi les engagements pris par le représentant des différentes structures des jeunes de la ville de Beni figure notamment l'unanimité de tous les jeunes avant l'organisation de manifestations ou encore les non-recours à la violence pendant les dites manifestations. Hope Djawoto du Parlement des jeunes explique.
Après tout ce qui a été fait et en étant optimiste, nous espérons que les manifestations suivantes seront sans problème suivant les règles de notre dialogue. Parce que lorsque vous agissez toujours sans pouvoir vous concerter, ça crée toujours des problèmes.
Pour sa part, le coordonnateur du comité d'élèves de Beni salue les décisions et parle d'un engagement qui va désormais épargner les élèves et qui ont souvent été forcés par les organisations des manifestations de descendre dans la rue, les empêchant ainsi d'aller à l'école. Jano Kakule Kangwana.
Parfois, les mouvements citoyens, les groupes de pression, la société civile, mais également les motards, nous dérangent quand ils décrotent leurs différentes manifestations. Dans cette activité, nous venons de bénéficier parce que toutes ces structures viennent de prendre un engagement que quand ils feront leurs activités, donc les élèves iront à l'école sans difficulté.
Un comité de consultation des différentes structures des jeunes de Beni a été également mis en place pour le suivi des recommandations. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Au Kassai central, les conseils provinciaux de la jeunesse déplorent le fait qu'aucun jeune n'a été nommé parmi les nouveaux ministres provinciaux malgré les propositions et plaidoyers. Il l'a fait savoir dans une déclaration faite à la suite de la publication du gouvernement provincial par les gouverneurs des provinces. Les conseils rappellent aux nouvelles autorités qu'ils doivent adhérer aux propositions et plaidoyers des jeunes pour favoriser leur participation aux instances de prise de décision. Peter Bakandoa est le président du conseil provincial de la jeunesse Kassai Central. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Le conseil provincial de la jeunesse porte à la connaissance de toute la jeunesse du Kassai Central qu'aucune nomination n'est faite d'une manière officielle et reste attentif à tout mouvement de nomination et taux de participation des jeunes malgré nos propositions, plaidoyers et contacts avec différents décideurs de la province. Sur la participation des jeunes aux instances décisionnelles, aucun jeune, conformément à la politique nationale de la jeunesse, n'a été nommé ministre au sein du gouvernement provincial de son exemple, monsieur le gouverneur de province. Une chose que nous déplorons, le conseil provincial de la jeunesse invite toute la jeunesse au calme, car son bureau continue à travailler avec les autorités provinciales sur la participation des jeunes dans les prochaines nomination dans les cabinets politiques et au sein des institutions provinciales.
En Ituri, plus de 50 enfants souffrant de malformations des lèvres, communément appelées bec de lièvre, ont été opérés à l'hôpital général de référence de Bounia. C'est dans le cadre d'une campagne d'opération chirurgicale menée par l'ONG internationale Samaritan Purse en collaboration avec l'administration militaire. L'objectif, selon les organisateurs, est de donner un nouveau sourire à ces enfants, souvent marginalisés à cause de leurs malformations. Reportage Marcel Kizabiamungu.
Les personnes affectées par cette malformation congénitale sont venues de l'Ituri, du Haut et Bazouélé. Au cours de cette campagne, au moins 130 personnes, à majorité des enfants, vont bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite des réparations de bec de lièvre. Selon les médecins directeurs de l'hôpital général de référence de Bounia, cette opération consiste à restaurer la déchirure pour que la bouche soit séparée du nez, ce qui donnera de nouveau le sourire et la dignité aux malades et favorisera par la même occasion leur réinsertion, le docteur John Katabuka.
Cette intervention est vraiment un grand impact médical, social, psycho-affectif et la réinsertion et de redonner la dignité à ces gens-là.
Parmi les causes de cette malformation congénitale, les responsables des projets évoquent entre autres l'automédication par les femmes enceintes et la transmission héréditaire. Pour le bon déroulement de cette campagne, le gouverneur des provinces a exonéré les malades venus d'autres provinces du paiement de Goupas et de la taxe provinciale aux aéronefs qui assurent les transports de patients à Bounia. La campagne bénéficie également de l'accompagnement logistique et financier des 24 expatriés, dont 4 médecins venus des États-Unis d'Amérique.
Au Maniema, une délégation de l'Institut national de la statistique est en mission d'enquête des conditions de vie des ménages. Dans une interview à Radio Okapi hier mercredi, Madame Mianda Michel, superviseure de l'enquête, affirme que cette étude prendra 2 mois. On écoute Mianda Michel au micro de Florence Kizalunga.
Le gouvernement a besoin de mesurer le niveau de pauvreté de sa population pour mettre en exergue des stratégies afin d'éradiquer la pauvreté. Et pour cela, il a besoin des données, des statistiques. Et c'est ainsi que nous sommes ici pour mettre en œuvre cette étude. Avec la population de Maniema, nous allons les interviewer. Ce sont les enquêteurs qui vont passer des interviews dans les ménages et avec les réponses qu'ils vont donner, cela constituera des données statistiques qui vont permettre au gouvernement de prendre des décisions. Le vendredi, il y aura le lancement de l'activité sur l'enquête des conditions de vie des ménages en sigle ECVM. Nous avons besoin d'un accompagnement des autorités provinciales, premièrement, afin de nous sécuriser. Et nous avons besoin aussi que la population puisse nous accueillir favorablement les enquêteurs dans les ménages.
En province de Maïndombé, la direction du complexe scolaire Saint-Benoît, situé au village Massiambio, en territoire des Kwamout, plaide auprès du gouvernement et des personnes de bonne volonté pour une assistance tant matérielle que financière. C'est pour l'achat et construction des bâtiments matériels et autres fournitures scolaires en faveur de cet établissement scolaire conventionné catholique appartenant à la congrégation de Saint-Benoît Joseph Larbre. Selon la sœur Yvette Ndona, la directrice de cette école, l'établissement avait tout perdu après avoir été saccagé par le milicien Mobondo l'année dernière. Elle pense que cette assistance va aussi permettre à cette école fréquentée par 120 élèves et aux enfants de bien reprendre les activités scolaires à la rentrée scolaire prochaine. Autre nouvelle, la communication par voie routière entre la ville de Bukavu et les chefs-lieux du territoire de Mwenga devient impossible à cause de la vétusté du pont Oulindi sur la rivière du même nom. La barre métallique transversale de ces ponts a cédé depuis maintenant 5 jours, rendant impossible la traversée des véhicules de gros tonnage. Les retombées sur les plans économiques sont tellement énormes, n'est-ce pas Jean Kassami?
Outre le pont Oulindi qui paralyse le trafic depuis samedi passé, il y a bien d'autres encore en état de praticabilité. Nos sources à Mwenga parlent des ponts Kadubo, Mudubwe et Kibi aussi effondrés. Lungele Itebo, président du bureau de coordination de la société civile du territoire de Mwenga, s'inquiète de l'isolement définitif de leur entité si le pouvoir en place tarde à réhabiliter ces ponts.
Le pont Oulindi n'est plus praticable. Parmi les 4 rails transversales, l'un de ces rails a déjà des cassures et ça peut causer des dégâts. Cette fois-là, nous demandons aux députés zélés du territoire de Mwenga, national et provincial, d'être unis et de bouger le gouvernement pour la reconstruction de ces 4 ponts. Et aussi, nous demandons à nos commerçants de ne pas doubler les prix des biens de première nécessité.
L'Office des routes, société étatique en charge des travaux des routes, ponts et chaussées, évoque les problèmes de manque de matériel approprié pour la remise en état de tous ces ponts qui connectent les chefs-lieux de la province au reste de ces entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Au nord Oubangui, la ville de Badolite est actuellement sous menace d'enclavement. La situation est grave, indique le président du cadre des concertations provinciales de la société civile, car, explique Taylor Taïman, avec la saison des pluies, les bourbiers et la boue couvrent la RN24. Cela empêche les trafics entre Badolite et Yakoma, soit entre Badolite et Businga, surtout sur ces derniers tronçons qui est l'épine dorsale de l'économie de la province. On écoute à ces propos les présidents du cadre des concertation provinciale, Taylor Taïma, joint par Paul Richard Malengela.
Ce matin, là, plus sérieusement, là, il y avait près de 2 semaines maintenant, ça a repris avec beaucoup de force là. Donc, la L24 de Bumanda jusqu'à Yakoma, ça ne va pas. Donc, du côté Kotakoli, le mois plus passé, du côté Yakoma, ça ne va pas. Et puis, Bosinga, nous ne parlons même pas. Donc, la situation est très grave.
Comment ça se passe avec les gens qui empruntent cette route-là?
Ils abordaient à un moment où il y avait un peu la sécheresse. Il n'y avait que des trous, il y avait pour passer. Mais pour le moment, comme il y a des bouts partout là, là, ça fait 2-3 jours là-bas, les commerçants disent qu'ils vont plus mettre leurs véhicules sur cet axe. Donc, nous serons bloqués. La situation est grave maintenant. Abbé Mbimba, le deuxième président du cadre, celui qui est à Businga maintenant, il nous a raconté que ça ne va pas, ça ne va pas. Celui, oui, mais il n'y a pas moyen parce qu'il devait faire jusqu'à Loco. Puis avec les enfants, ils ont essayé, mais ça a été très difficile. Donc, la situation est très difficile.
Notons que les tronçons Businga-Badolite, long d'environ 140 km, est la principale voie d'approvisionnement du chef-lieu de la province. Plusieurs habitants de la ville craignent bientôt la pénurie des produits de première nécessité sur les marchés et interpellent le gouvernement central.
Actualité internationale.
Au Kenya, le président Ruto dans une impasse politique face à la grogne de la jeunesse. Une semaine après avoir envoyé son gouvernement, le président Ruto n'a toujours pas nommé de nouveaux ministres. Il a promis un gouvernement élargi. Il a également offert un dialogue national, notamment avec les jeunes, mais personne ne se bouscule pour collaborer. Dans le cadre d'une opération mondiale visant les groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest sur les 5 continents, la police a arrêté 300 personnes, saisi 3 millions de dollars et bloqué 720 comptes bancaires, a déclaré Interpol mardi. L'opération Jackal 3, qui s'est déroulée du 10 avril au 3 juillet dans 21 pays, visait à lutter contre la fraude financière en ligne et les réseaux ouest-africains qui en sont à l'origine, a indiqué l'organisation dans un communiqué.
L'invité.
Célébration ce jeudi de la Journée internationale Nelson Mandela, qui nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Cette journée a été instituée en 2009 par l'UNESCO pour honorer les 67 ans de lutte de Nelson Mandela au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier des consciences, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Pour en parler, le professeur Kaumba Lufunda, sénateur honoraire et auteur du livre Ubuntu, philosophie de Nelson Mandela, est l'invité de Radio Kapi. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Kaumba Lufunda, bonjour.
Bonjour, bien cher Michel Kifindangoy.
Nous célébrons ce jeudi la Journée internationale Nelson Mandela. En quoi consiste cette journée?
Merci de m'associer à la célébration de la Journée internationale qui est dédiée à cette immense icône africaine qu'est Nelson Mandela. La Journée internationale Nelson Mandela, nous la célébrons aujourd'hui, le 18 juillet, parce que c'est une date qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. En fait, il était né le 18 juillet 1918. Il est décédé, comme nous le savons bien, le 5 décembre 2013. Et alors, depuis le 10 novembre 2009, l'UNESCO avait décidé de lui dédier une journée. Et c'est pourquoi on avait retenu la date de sa naissance. C'est une manière de rappeler à la conscience humaine l'immense contribution de Nelson Mandela en matière de lutte contre l'apartheid, la ségrégation raciale, de rappeler son engagement en faveur de la promotion d'une culture de la paix, et aussi de rappeler à la mémoire collective l'accession du premier noir à la magistrature suprême en République sud-africaine.
Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie au service de l'humanité. Qu'est-ce que les générations actuelles peuvent retenir de ce personnage africain et prix Nobel de la paix?
Vous savez, Nelson Mandela avait consacré 67 ans de sa vie à la lutte pour la reconnaissance des droits humains et de la diversité culturelle, pour la justice sociale, l'égalité des êtres humains, la réconciliation nationale et pour le renforcement de la diversité, la reconnaissance de la diversité culturelle. Eh bien, tous ces idéaux, nous devons pouvoir les entretenir et c'est pourquoi on demande à tous les humains à consacrer quelques temps, au moins une fois par an, parce qu'on dit, lui, il a consacré 67 ans. Nous, on nous demande juste de consacrer 67 minutes à cela, à la justice sociale, à la réconciliation nationale, à la promotion de la diversité culturelle. Et il vous souviendra, il nous souviendra à tous, que Nelson Mandela a promu la philosophie de l'Ubuntu, Bomoto, Bumuntu, le fait d'être un humain. C'est quoi être un humain? Nous sommes des hommes. Nous sommes avec d'autres hommes. Et avec eux, nous sommes dans des relations de reconnaissance de la dignité de chaque homme. La reconnaissance réciproque.
Nelson Mandela a joué un rôle majeur dans la recherche de la paix en RDC, avec notamment la négociation de l'Outenika entre le président Mobutu et Laurent Désiré Kabila. En quoi le leadership de Nelson Mandela peut-il être un modèle pour la classe politique d'une RDC aujourd'hui déchirée par une crise sécuritaire et de légitimité?
Nelson était venu jouer le rôle de réconciliateur entre Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Et quand Mzee Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il avait compris la leçon. Il a instauré la révolution, pardon. Il ne faut pas éliminer tous les barons de l'ancien régime, vous coupez la tête et les oreilles, non? On instaure la révolution, pardon. Et on a vu, lorsqu'il y a eu passation pacifique du pouvoir d'État, le peuple était réconcilié avec ses dirigeants. C'est vrai, quelques temps après, il y a eu éclatement de la coalition. Et jusqu'à présent, nous en subissons le contre-coup sur le plan de la cohésion nationale. La situation est d'autant plus préoccupante que la guerre s'en est mêlée, alors que la classe politique issue des élections de 2023, cette classe est en train de s'empoigner. On oublie l'intérêt national, on est en train de rechercher les positionnements personnels. Eh bien, plus que jamais, Nelson Mandela devrait nous inspirer tous.
Dans votre ouvrage Ubuntu, vous vous inspirez de l'idéologie de Nelson Mandela pour prôner les valeurs de paix et de cohabitation pacifique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui des leçons ou des enseignements laissés par Nelson Mandela que vous relayez à travers votre ouvrage?
En somme, le comportement qu'affiche la classe politique aujourd'hui, ça ressemble à des complots ourdis contre le peuple. Ces complots prennent quelle forme? Sous forme de corruption, de détournement des deniers publics, de conspiration contre le bien-être du peuple. Le peuple souffre, on le dit tous les jours, quand on voit le prix du pain, le prix de ceci. Et puis quand on y ajoute aussi des dérives tribales, eh bien, si notre démocratie connaît des difficultés, ce n'est pas à cause du peuple. C'est le peuple qui est victime de cette situation. C'est donc de la responsabilité de la classe politique qui refuse de respecter les lois. C'est au milieu de la justice que les gens ne veulent pas dire les droits. On ne veut pas reconnaître au peuple ses droits à une vie saine et digne. Eh bien, tout cela devrait être corrigé. Corriger cela, ce serait véritablement suivre le modèle de Nelson Mandela.
Professeur Kaoumba Lufunda, je vous remercie.
Merci, cher ami.
Et c'est la fin de cette session des nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Debs Vita sous la supervision et coordination de Peleki Pelamondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous pour votre sympathique attention.